Et dernièrement, j'étais à la plus grande prison d'Europe, à Fleury-Mérogis, et pour l'occasion, je m'étais habillé comme tout le monde, en jean basket, comme toi, mon garçon. Faut dire que j'ai un peu l'habitude d'aller en prison, donc je voulais passer incognito. Pourtant, lorsque je rentre dans la salle, il y a un gars, un rasta, qui est au fond et qui m'appelle, qui me dit « Yanis, Yanis, viens, viens, viens ». Je me dis « Mince, qui m'a reconnu dans cet endroit ? Pourtant, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds en prison ». Alors, je m'approche de la personne et plus je m'approche de lui, plus je m'aperçois que c'est Polo. Et vous savez, Polo et moi, c'est une longue histoire. Ça faisait 17 ans qu'on ne s'était pas vu. À l'époque où on se côtoyait, Polo, c'était un rasta indigent qui dormait dans la cave et moi, j'étais le plus gros dealer du quartier. Et de temps en temps, Polo sortait de la cave pour me mendier une petite boulette de cannabis. Et comme il faisait peur à ma clientèle, je lui donnais une boulette de cannabis et je lui disais « Polo, file dans ta cave, tu vas faire fuir mes clients ». Et là, Polo m'appelle, il me dit « Viens, viens, viens ». Il a le sourire jusqu'aux oreilles et moi, je sais ce qu'il pense dans sa tête. Il est en train de se dire « Chouette, Yanis est de nouveau incarcéré, je sais qu'il a du shit dans ses poches, il va me donner de quoi fumer dans ma cellule. Waouh, ça va être super ». Alors je m'approche de Polo, je lui dis « Comment ça va, Polo ?» Et Polo, il me dit « Moi, ça va, et toi, Yanis, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise pour être de nouveau en prison ?» Je le regarde, je lui dis « Mais non, Polo, je n'ai pas fait de bêtises aujourd'hui, c'est moi qui viens partager mon témoignage avec vous. » Polo me regarde, il commence à faire la grimace, je vois ses yeux rouges qui font peur, et je sais qu'il ne me croit pas. Alors il me dit « Yanis, depuis que je te connais, tu n'as jamais respecté qui que ce soit, et je m'aperçois que tu ne respectes même pas Dieu. Allez, s'il te plaît, assieds-toi, on va écouter le sermon du pasteur. » Ok. Je prends place à côté de Polo et le pasteur commence à conduire le peuple dans la louange. Et pendant que nous sommes en train de louer et d'adorer le Seigneur, Polo me tape sur l'épaule et me dit « Au fait, Yanis, j'ai oublié de te demander, t'as du shit avec toi ?» Je lui dis « Toi, Polo, vraiment, t'es pas sérieux. » Et à la fin de la louange, le pasteur vient et dit « Voilà, aujourd'hui nous avons un invité, quelqu'un qui a connu la détention et qui a vu Dieu changer sa vie. Il va vous raconter ce que Dieu a accompli dans sa vie. » J'ai nommé Yanis Gauthier. Je sors des rangs, je m'approche et je commence à témoigner à toutes ces personnes qui me ressemblent tellement, ce que Dieu a fait dans ma vie, comment il m'a libéré de prison et comment il a reconstruit ma vie. Et à la fin, je fais un appel, je dis haut et fort, y a-t-il quelqu'un qui veut confier sa vie à Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de Jésus aujourd'hui? Tous les prisonniers se lèvent et s'approchent. Et c'est au tour de Polo qui est en larmes, il est effondré. Et il me dit « Yanis, tu sais quoi ?» Je lui dis « Non, Polo. » Il me dit « Petit, j'allais à l'église avec mes parents. J'allais à l'école du dimanche. À la maison, mon père me racontait les histoires de la Bible. Mais à un moment donné, j'ai commencé à faire des bêtises. Et à force de les accumuler, j'ai vraiment cru dans mon cœur que Dieu était en colère contre moi. Alors, j'ai tourné le dos à l'église, j'ai fermé ma Bible, croyant fermement qu'un jour, la main de Dieu allait me stopper, allait me châtier. Mais Yanis, en entendant ton témoignage, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Parce que moi, je sais ce que tu as fait dans ta vie. Tu étais bien plus méchant que moi. Tu as fait plus de bêtises que moi. Alors je me suis dit en moi-même, mais ce n'est pas possible. Si Dieu a pu changer un gars comme toi, si Dieu a pu reconstruire la vie d'un gars comme toi, il peut aussi le faire dans ma vie. Mais voici ici, Yanis, je veux confier ma vie à Jésus-Christ. Et quand je vois cette prise de décision, je me dis, oui, Seigneur, c'est pour ça que je vis. C'est pour voir, Seigneur, ta main arracher, les perdus des ténèbres et les transporter dans ton royaume d'amour, ton royaume de gloire. Et voyez-vous, cet après-midi, je vais vous raconter ma vie. Mais simplement, j'aimerais vous dire que ma vie n'a aucune valeur, n'a aucun sens sans Jésus-Christ. C'est lui qui rend les choses possibles. C'est lui qui a permis que je sois là avec vous cet après-midi. J'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'acclamation, s'il vous plaît. commence pour moi en 1996, alors que je suis incarcéré à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy. Je suis là dans cette petite cour de 10 mètres carrés et je fais les 400 pas. Je pense à Manu, ma conjointe avec laquelle j'ai deux enfants. Elle attend un troisième enfant de moi. Je pense à ma situation. Je suis incarcéré pour 3 vols à main armée. Je risque 20 ans de prison et je réalise que j'ai franchi toutes les limites que je m'étais fixées. La réalité, c'est que j'aimerais tellement qu'on me donne une seconde chance. Mais cela n'est pas possible. Comme on dit, les jeux sont faits. Mais je me dis en moi-même, à quel moment j'aurais pu m'en sortir? Je crois fermement que là, je vis les conséquences de mon destin. Je crois fermement que Dieu m'a réservé à vivre au milieu, au sein de la souffrance. Il faut dire que je n'ai pas vraiment eu de chance dans ma vie. Mon père a connu ma mère dans une boîte de nuit et leur relation n'a duré que le temps de ma conception. Avant ma naissance, mon père avait déjà quitté ma mère et ma mère a sombré dans la dépression en pensant à son futur. Alors dès qu'elle m'a mis au monde, elle m'a pris et m'a déposé aux services sociaux comme on dépose un colis à la poste. Je vais rester quelques mois au sein d'une famille d'accueil et mon père, peut-être pris par les remords, prend la décision de me récupérer et de m'introduire dans sa famille. Là, je fais la connaissance de sa conjointe, Mireille, de mon grand frère Franck et de mon petit frère Julien. Mon père, c'est quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire. Après 11 jours de bateau, il arrive dans ce pays qui, à ses yeux, représente la terre promise, l'endroit où il va enfin devenir quelqu'un. Par le biais de sa conjointe, il réussit à contracter un crédit avec lequel il ouvre une boutique de prêt-à-porter. Mais malheureusement, il confond recettes et bénéfices. Ses soirées, il les passe dans les boîtes à s'amuser, s'éclater, boire du champagne jusqu'au petit matin. Et à un moment donné, cette conduite chaotique va l'entraîner dans la faillite. Il est pourchassé par les créanciers, plie bagages et prend la fuite pour la Côte d'Ivoire, me laissant de nouveau. Mireille, ma belle-mère, est criblée de dettes. Alors, les huissiers vont lui prendre tout ce qui lui reste et les services sociaux vont se faire un plaisir de nous reloger dans une banlieue extrêmement difficile du 93, La Courneuve. Là, ma vie va changer. Mireille ne m'accepte pas. Si elle me garde, c'est simplement pour les allocations familiales. Et moi, qui suis qu'un enfant, je considère cette femme comme ma maman, mais ma maman ne m'aime pas. Et tous les jours, je dois ranger la maison qui ressemble à une véritable porcherie. Nous n'avons pas de courant, pas de vêtements. Rares sont les jours où nous mangeons à notre faim. Nous prenons un abonnement annuel au Secours catholique. Et Mireille va me faire comprendre que je n'ai pas ma place au sein de la maison. Je n'ai pas le droit aux câlins qu'elle réserve à ses enfants. Je n'ai pas le droit de partager un bon repas avec eux. Non, moi, ma place, c'est dans cette chambre, sans jouer, sans vie. Parfois, il arrive à Mireille de rentrer dans des excès de colère et de me frapper. Alors, elle me lève la nuit, m'amène dans la salle de bain, me crache au visage, me balance la tête contre les murs, me met des coups de poing, m'insulte de tous les noms parce qu'elle ne m'aime pas. Et quand je vais à l'école, je côtoie un univers que j'ignorais totalement. Sur mon chemin, je rencontre des toxicomanes qui m'appellent pour m'offrir un bonbon. Quand je m'approche de ces gars, que je vois leurs yeux révulsés, leurs bras en sang, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Et puis, c'est des gars qui se livrent de la colle dans un sac, sur un banc en face de l'école. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce sac dans leurs mains? Les dealers qui sont là dans le hall de l'escalier qui me disent de bouger, de ne pas rester là. Le soir, c'est la violence, c'est les policiers qui rentrent dans le quartier pour se battre avec les grands. C'est les grands qui cassent les voitures. Un après-midi, alors que je suis en train de jouer avec un camarade, un voisin qui en a assez de nous entendre, ouvre sa fenêtre, sort sa carabine, tire une balle au hasard qui atteint la poitrine de mon copain qui meurt quelques minutes plus tard. Un peu plus tard, c'est au tour de mon grand frère, Franck, de me montrer ce que je ne devais pas voir. Mon frère, pour gagner un peu d'argent, prend l'habitude d'ouvrir la maison à tous les dealers du quartier qui viennent là dans l'appartement couper leur héros, leur coke, leur cannabis et en consommer sous mes yeux. Et puis le soir, c'est encore un spectacle effroyable. Mon frère avait pris l'habitude de traîner dans les boîtes de nuit avec sa bande, les requins vicieux. Et là, il ramenait des filles, des proies faciles à la maison dans le but de les violer. Sous mes yeux, j'ai vu des filles se faire violer ou alors se mettre des couteaux sur le ventre ou littéralement se défenestrer pour ne pas être violées. Alors quand en cinquième, mon professeur de français me dit « Yanis, tu n'es qu'un cancre, tu es le clown de la classe, ta place c'est dans la rue. » J'ai envie de lui dire « Mais vous ne me connaissez pas, mais vous me jugez. » Vous ne savez pas que si je ne viens pas à l'école, ce n'est pas parce que je n'aime pas l'école. Mais bien souvent, c'est les jours du marché. Et moi, je fais les fins de marché pour ramasser des fruits, pour avoir quelque chose à manger. Si je ne fais pas mes devoirs, ce n'est pas parce que je ne veux pas faire mes devoirs. Mais je n'ai pas de courant à la maison. Je n'ai même pas de fourniture scolaire. Et puisque c'était comme ça, je me suis dit que peut-être traîner dans la rue avec les jeunes qui, comme moi, étaient ignorés par leur famille, déscolarisés, allait être une solution. Alors, je me mets à traîner avec une bande aussi. Je ne suis pas méchant, mais quand je vois des jeunes de mon âge avec leurs parents, mangeant une glace, se réjouissant ensemble, je vis cela comme une injustice. Alors, quand je vois quelqu'un qui a un beau blouson et que moi j'ai froid en hiver, je me donne le droit de lui voler son blouson. Quand je vois quelqu'un qui a de l'argent dans sa poche et que j'ai faim, je me donne le droit de lui prendre son argent. Un jour, je me retrouve dans le bureau d'un juge d'instruction. J'ai 15 ans. Et la seule solution qu'elle trouve pour pallier à mon problème, c'est de m'envoyer en prison. J'ai 15 ans, je me retrouve en prison. Et vous savez, à la cité, qu'est-ce qu'on dit de la prison? On dit que c'est l'école de la vie, c'est l'école de la rue. C'est là qu'on rencontre des personnes qui ont une histoire, qui ont un vécu. Et puis en prison, je m'aperçois d'une chose. On me donne de l'attention. J'ai 3 repas par jour. J'ai la télé dans ma cellule. J'ai l'eau chaude. J'ai un matelas pour dormir, je suis mieux qu'à la maison. Alors je ne prends pas mon incarcération comme une punition, mais comme une opportunité pour évoluer dans le monde auquel j'aspirais, celui de la délinquance. En promenade, je discute avec les grands. Avec ces gars qui ont fait des coups, qui ont une histoire. Et j'emmagasine tout ce qui est susceptible de me resservir plus tard. Et quelques années après ma sortie, j'étais devenu un vrai leader. Je me suis mis à voler, à cambrioler, et puis à dealer en petite quantité. Et après en grosse quantité. J'ai créé des filières à Amsterdam, au Maroc, recruté des personnes dans les cités, qui vendait pour moi partout en Île-de-France. Et là, mon train de vie va changer. Désormais, je roule en belle voiture. Je pars en vacances quand j'en ai envie. Je dors dans les plus beaux hôtels. Et quelque part, pour moi, c'est une belle revanche. Influencé par certains films américains tels que Scarface, je me prends vraiment pour Tony Montana. Et je trouve un palliatif à ma détresse intérieure. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Alors, mon palliatif, c'est l'alcool et les extasies. Ah oui, avec ça, je fais la fête, je m'éclate. Et dans ce contexte d'euphorie totale, je fais la connaissance d'une personne, Manu, avec laquelle je vais avoir 2 enfants. Manu a quelques années plus que moi et sa vision de la vie est bien différente de la mienne. Manu veut que nous puissions fonder un foyer. Elle veut me voir travailler, être présent pour les enfants, présent pour elle. Alors elle me demande de faire un choix. À cause de ma vie disloquée, elle me demande de choisir entre mes sorties, mes potes, et elle et les enfants. Et je choisis les sorties, mes potes. Et j'abandonne mon foyer, je la quitte. Et là, je vais aller encore plus loin en termes de violence. Je vais me mettre à séquestrer et à torturer des dealers de drogue dure, c'est-à-dire d'héroïne et de cocaïne. L'avantage avec ce type de personnes, c'est qu'ils ne portent pas plainte. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils se vengent. Et un jour, un des dealers que j'avais agressé va me poignarder. Je me rends à l'hôpital et le médecin, après m'avoir ausculté, m'informe que j'ai reçu 3 coups de couteau dans le poumon gauche, qu'il faut m'opérer en urgence parce que je fais une hémorragie. Et me voici déambulant le long couloir qui mène au bloc opératoire. Et là, je regarde le médecin, je lui pose une question. Je lui dis, docteur, est-ce que je vais vivre, docteur? Est-ce que je vais vivre? Mais le docteur, il ne peut pas me répondre. Et j'entends une voix qui parle à mon cœur. Cette voix, c'est la même voix qui parlait à mon cœur d'enfant. Lorsque je dormais dans la cave après avoir été frappé par Mireille, cette même voix qui me disait, mon enfant, je t'aime. J'entends cette voix qui me dit, tu vivras. À mon réveil, j'étais en réanimation et lorsque j'ai posé ma main sur mon côté gauche, je me suis aperçu que j'avais 70 points de suture, qu'on m'avait scié les côtes pour arrêter l'hémorragie, que Dieu m'avait gardé en vie. Dès que j'ai pu, j'ai demandé au personnel de prévenir Manu, qui s'est empressé de me rendre visite. Elle m'offre une Bible, m'annonçant que désormais sa vie avait bien changé, qu'elle fréquentait une église et qu'elle cherchait à approfondir sa foi. Chaque jour, Manu venait me voir à l'hôpital, me partageait des psaumes, et ça me faisait énormément de bien. À un moment donné, les médecins me permettent de regagner ma chambre d'hôtel, Manu rentre auprès de ses enfants, et là, je vais sombrer dans la dépression. Auparavant, c'était la nuit que je me droguais, que je buvais. Mais là, c'est le jour et la nuit. Et à n'importe quelle heure de la journée, mon corps se met à trembler. Me supplie de lui donner son poison. Un jour, je me réveille. J'ai une pleine vue sur ma vie. Elle se résume au mot désastre, calvaire. Alors j'ai envie d'en finir. Je prends une lame de couteau. Je me mets sur les genoux dans cette chambre d'hôtel et toute la matinée, je pose cette lame sur mon bras gauche, essayant de trouver la force de me sectionner les artères. Mais je n'ai pas eu la force de le faire. Alors j'ai fini par me mutiler, me taillader le bras, m'infliger une punition, celle que la vie m'infligeait chaque jour. Manu s'est aperçue de ma déchéance physique et psychique. Elle me demande de regagner la maison. J'avais plus rien, j'étais à bout. Forcé d'accepter, me voici de retour à l'appartement. Mais le problème, c'est que je ne suis pas seul. Moi, je suis lié par l'alcool, par la drogue, par la violence. Alors, quand elle me voit arriver, elle s'imagine que j'ai changé à cause de mon séjour à l'hôpital. Elle s'imagine que j'ai pris des bonnes résolutions. Mais non, non, ma vie n'a pas changé. Et je vais commencer à boire à la maison, à me droguer, à inviter mes amis dans l'appartement qui vont rouler leurs joints, se divertir devant la télé sous les yeux des enfants. Et à cause de cela, Manu et moi, nous avons des disputes terribles, terribles. Et à chaque fois que ça ne va pas, elle me supplie d'aller à l'église. Je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, comme vous le faites là aujourd'hui. J'ai une Bible dans ma main. J'accepte même que le pasteur prie pour moi. Mais la réalité, il n'y a rien dans mon cœur. Sans Dieu, j'en ai pas besoin. Je ne crois pas que Dieu s'intéresse à moi. Je ne crois pas que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Je crois que Dieu m'a réservé pour vivre l'enfer sur la terre. Je n'ai pas besoin de son Dieu. À cause de mon endurcissement, chaque fois qu'elle essaye de prier à la maison, chaque fois qu'elle ouvre sa Bible, je blasphème. Elle me dit toujours, Jésus est la solution. La réalité, c'est qu'elle venait d'apprendre qu'elle était de nouveau enceinte. Et moi, je me disais fermement qu'une femme avec 3 enfants de moi n'oserait jamais me quitter, n'oserait jamais me dire non. Alors, j'ai fini par lui imposer ma manière de vivre, mes dépendances, mes amis, mes sorties. Mais pas moyen, elle ne cède pas. Puisqu'il en était ainsi, il fallait que je la quitte de nouveau. J'avais envie de partir loin, en Martinique, refaire ma vie avec un ami là-bas, ouvrir un restaurant, m'exiler. Mais pour cela, il me fallait de l'argent. Alors, avec cet ami, nous nous sommes armés et on a commencé à attaquer des banques, à faire des braquages. 1, puis 2, puis 3. À un moment donné, on a assez d'argent pour s'exiler. Mais voici, devant la porte de l'appartement, en vue de récupérer mes affaires pour quitter Manu et quitter la France. Quand j'ouvre la porte, je me retrouve plaqué au sol avec 3 pistolets sur la tempe. C'est les policiers qui étaient là depuis 48 heures. Depuis 48 heures, ils m'attendaient, ils avaient pris Manu comme appât. Me relève de l'entrée, m'amène dans le salon. Et là, sur la table, ils ont positionné tout ce qu'ils ont retrouvé dans l'appartement. Armes, argent, cagoule. Et Manu est complètement dévastée par la situation parce qu'elle découvrait elle aussi que je m'étais servi d'elle, servi des enfants, servi de l'appartement comme base arrière. Manu et moi, nous avons été conduits au commissariat, elle était accusée de complicité, de vol à main armée. On a été placés en garde à vue, elle était enceinte. Et au bout de quelques auditions, j'ai pu la disculper des charges qui auraient pu peser contre elle. Et je ne sais pas si je peux appeler ça un acte de gentillesse, mais l'inspecteur va me dire, je serai vous, je lui dirai au revoir. Parce que ce n'est pas demain la veille que vous allez vous revoir. Alors, dans la cour de ce commissariat, je me suis approché d'elle. J'ai regardé cette femme qui m'a aimé plus que ma propre mère, cette femme qui a voulu toujours rester avec moi, cette femme qui a toujours vu le bon côté en moi, cette femme qui a toujours souhaité que je change. Et je lui dis, Manu, maintenant c'est terminé. Fais ta vie, Manu. Dis aux enfants que papa ne reviendra plus, c'est fini, oublie-moi, terminé. J'ai été présenté à un juge d'instruction qui m'inculpe de 3 vols à main armée, me met sous un mandat de dépôt d'un an, renouvelable 3 fois. Elle m'annonce que je vais être jugé par une cour d'assises et que la peine encourue pour les faits qui m'étaient reprochés était de 20 ans. 20 années. Me voici de nouveau à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, mais cette fois, ce n'est pas les colonies de vacances. La première nuit que je passe au sein de ce bagne, il y a 2 jeunes qui sont dans la cellule face à la mienne, qui ont jugé bon de mettre le feu dans leur cellule, histoire de se faire entendre. Mais le temps que les surveillants arrivent pour les sortir des flammes, ces 2 jeunes sont morts intoxiqués par les fumées. La juge me coupe les ponts avec le monde extérieur. J'ai pas d'argent, pas d'avocat, pas d'amis, personne, pas de courrier, rien. Je suis seul face à ces murs sur lesquels je frappe jusqu'au sang. Tellement je m'en veux, tellement je suis en colère contre moi-même. Pour tuer le temps, je m'inscris aux ateliers, histoire d'avoir un peu d'argent pour me nourrir. Et 2 jours par semaine, certains détenus avaient le droit au parloir. Et à chaque fois que je revoyais mes camarades revenir du parloir, contents d'avoir vu leur famille, je pensais à Manu, aux enfants, à sa grossesse. Certains me disaient qu'avec le temps, j'allais oublier, mais rien à faire. Je n'arrive pas à oublier. Je n'arrive pas à ne pas penser à ma famille. Un jour, le surveillant me dit, « Monsieur Gauthier, vous avez parloir. » Je descends dans le parloir et je tombe sur Manu. Les enfants, je prends des nouvelles d'elle, des enfants. Je la quitte. Je croyais fermement qu'on allait se revoir pour l'anniversaire d'un de mes enfants, mais 2 jours plus tard, le surveillant me dit, « Monsieur Gauthier, vous avez parloir. » Quand je descends dans le parloir, je retombe sur Manu et mes enfants et je dis, « Manu, mais pourquoi tu viens me voir ici? Pourquoi tu ramènes mes enfants en prison, Manu? Pourquoi tu viens dans cet endroit? Tu es jeune, tu es belle, tu as l'avenir devant toi, tu as une famille qui t'aime, tu as un travail. Pourquoi tu gâches ta vie avec moi ?» Et là, Manu me dit, « Non, j'ai quitté mon travail. Je me suis disputé avec ma mère. Moi et les enfants, on va rester avec toi. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les années, on va rester avec toi. On ne peut pas te laisser tout seul, on ne peut pas t'abandonner. » 3 fois par semaine, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, Manu prenait son bus qu'il a déposé à 2 km de la maison d'arrêt, après quoi elle devait gravir une pente. Parfois, Manu venait au parloir, les genoux en sang. Elle me disait, « Les enfants ne veulent pas marcher. Je les porte, mais il m'arrive de glisser. Mais c'est Dieu qui me donne la force d'être là. » Les psychiatres qui étudiaient ma personnalité avaient constamment la même conclusion à mon égard. « Monsieur, vous direz qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas. Dites-nous quelque chose. On peut vous faire un rapport qui vous sera favorable le jour de votre jugement, mais vous ne dites rien, vous ne parlez pas. On dirait que vous êtes mort à l'intérieur. » Et à chaque fois que la juge d'instruction demandait à me voir, quand je rentrais dans son bureau, il y avait toujours un dossier qui m'attendait, un braquage irrésolu. Un jour, je me suis levé dans son bureau, je lui ai dit, « Madame la juge, est-ce que je suis le seul braqueur du 78? Est-ce que c'est à moi que vous allez confier tous vos braquages irrésolus ?» Et c'est Manu, avec sa foi et avec son Dieu, au parloir. La réalité, c'est que je l'aime, j'aime mes enfants, mais je n'ai pas besoin de son Dieu. Et quand elle me parle de Dieu, je fais mine de l'écouter. Mais un jour, j'en ai assez de l'écouter. J'en ai assez qu'elle me dise que Dieu m'aime. Alors, je me donne le droit de lui rappeler certaines vérités. Je me lève dans le parloir sous les yeux des enfants. Je prends Manu par le col. Je dis, « Manu, Ce mot que tu emploies, amour, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Manu? Qu'est-ce que ça veut dire? Manu, ça fait des années. Des années, Manu, que je l'ai éradiqué de ma pensée. Manu, mon père m'a abandonné. Ma propre mère, moi le fruit de ses entrailles, elle m'a jeté à la poubelle. J'ai vu mes amis mourir sous mes yeux. Toute ma vie, j'ai souffert, j'ai galéré. Comment tu oses me dire que Dieu m'aime, Manu? Quand j'étais petit et que je dormais dans la cave sur un bout de carton après avoir été frappé par Mireille, le seul être vivant qui me donnait de l'amour, Manu, c'est mon chien. Mon chien m'a aimé plus que l'homme, Manu. Y a que mon chien qui était là pour essuyer mes larmes quand je pleurais. Y a que mon chien qui était là pour me donner de l'attention. Comment tu oses me dire que Dieu m'aime? Dieu ne m'aime pas, Manu. Parce que si Dieu m'avait aimé, jamais, 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 il n'aurait permis cela. Jamais. Mais peu importe mes arguments, Manu, ne changez jamais de ton. Dieu t'aime et il peut changer ta vie. Un soir, je suis dans ma cellule, en pensée à ma situation, à mon état. Il se passe quelque chose là dans cette cellule. Quelque chose d'extraordinaire. Là au milieu, des rats et des cafards où tout le monde m'a abandonné, où je suis tout seul dans mon gouffre, dans mon chaos. Je sens la présence de Dieu. C'est comme si Dieu venait parler à mon cœur pour me dire, mon enfant, quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Toute la nuit, j'ai entendu cette parole marteler mon cœur. Toute la nuit. Le lendemain, j'avais parlé avec Manu. J'arrive, je reste debout, je regarde cette femme. Et c'est comme si Dieu levait un voile sous mes yeux. Je réalise que si elle est là, si elle tient debout, c'est simplement parce qu'elle croit que Dieu est capable de changer cette situation. Qu'à cause de mon attitude, elle a accepté que je la roule dans la boue et dans la poussière. Qu'à cause de moi, elle a accepté que ses enfants soient fouillés au parloir pour voir s'il n'y avait pas de la drogue dans leur couche. Que si elle est là encore, c'est parce qu'elle croit que Dieu est capable de changer cette situation. C'est sa foi qui la tient debout. Simplement sa foi. Alors je regarde Manu et je lui dis, Manu, Manu, ton Jésus, Manu, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour un gars comme moi? Est-ce que ton Jésus peut faire quelque chose pour un pauvre pécheur comme moi? Et là, Manu éclate en sanglots. Elle pleure. Elle me dit, il y a tellement longtemps que je me lève la nuit, que je prie Dieu pour voir ce jour. Il y a tellement longtemps que j'attends ce jour. Il y a tellement longtemps. Aujourd'hui, Dieu a entendu la voix de mes larmes et il vient d'exaucer ma prière. Aujourd'hui, Dieu a entendu la voix de mes larmes et il vient d'exaucer ma prière. Et là, dans ce parloir, j'ai confié ma vie à Jésus-Christ. Dès que j'ai pu, j'ai demandé une Bible, commencé à délecter la parole de Dieu. Et le diable pointe son nez. C'est comme s'il mettait une glace sous mes yeux en me disant, regarde qui tu es véritablement. Tu n'es qu'un drogué, un voleur, un ivrogne, un braqueur de banque. Tu es répugnant. Tu crois que Dieu va pardonner quelqu'un comme toi? Tu crois qu'un simple pardon peut t'octroyer le droit de changer de camp? Il me répétait des mots qu'on m'avait dit toute ma vie, histoire de m'asservir. Mais j'aimerais vous dire une vérité, le diable est un menteur. Je dis le diable est un menteur. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16, ça c'est la vérité. Et cette vérité était mienne. Et même si les circonstances n'avaient pas changé, j'ai commencé à croire ce que Manu me disait au parloir. Dieu est capable de faire quelque chose pour changer cette situation. Nous arrivons au 7e mois de ma détention, qui était le dernier mois de la grossesse de Manu. Nous sommes là ensemble au parloir, nous prions, nous remettons ce moment entre les mains de Dieu. Je n'avais pas été présent pour les naissances de mes deux garçons. Et la vérité, c'est que j'aurais tellement voulu être là, ne serait-ce que pour lui tenir la main et lui dire « Chérie, chérie, pousse, pousse, pousse. » Et lorsqu'on se quitte, le surveillant m'informe que le directeur veut me voir. J'ai jamais vu le directeur, et quand le directeur demande à voir un détenu, ce n'est pas bon signe. Et lorsque j'arrive à son bureau, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il est en colère contre moi. Il pointe son doigt vers moi en me disant, « Des gens comme vous, on les garde au chaud ici. Monsieur, vous n'avez pas votre place au sein de la société. Vous êtes quelqu'un de dangereux, un criminel. » Et il conclut en me disant, « Moi, ça fait 20 ans que je travaille en milieu carcéral et je dois dire que j'ai arrêté d'essayer de comprendre les rouages judiciaires. » Je dis, « Ah bon ?» Il me dit, « Oui. Je suis tous les jours surpris. D'ailleurs, je le suis aujourd'hui parce que je viens de recevoir ce fax de la juge d'instruction. Elle a décidé de vous libérer provisoirement. Prenez votre patage et rentrez chez vous. » Là, je regarde le directeur, je lui dis, « Monsieur, il y a peut-être une erreur parce que moi, je suis Yanis Gauthier, matricule 52 964. Je suis là pour des vols à main armée. Cela ne fait que 7 mois. Je n'ai même pas fait ma peine puisque 7 mois, c'est ce qu'on fait pour un vol de voiture. » Il me regarde, fait la grimace et me dit, « Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous? Vous voulez rester là ?» Je lui dis, « Non, merci. » Je fais mon pactage, direction l'appartement, je sonne, dring, dring. Ma femme, les enfants m'ouvrent, ils m'accueillent. Nous allons dans le salon, nous nous mettons sur les genoux et nous commençons à louer, adorer, magnifier, exalter, glorifier notre Dieu. Et 2 heures plus tard, mon épouse me dit, « Chérie, je dis quoi, mon amour ?» Elle me dit, « J'ai mal au ventre, je crois que je vais mettre notre enfant au monde. » À 2 heures du matin, je coupe le cordon ombilical de mon petit garçon. Je pleure comme un bébé et je promets au Seigneur de le suivre pour le restant de mes jours. Pendant les mois qui vont suivre, je vais voir Dieu intervenir d'une manière particulière, spectaculaire dans ma vie. Il va me délier de la drogue, de l'alcool, de la violence. Il va m'ouvrir les portes pour que je puisse aller à l'église, être fidèle. Il va me donner un travail. Et enfin, je vais pouvoir épouser Manu. Ouais. 36 mois plus tard, je reçois une ordonnance de prise de corps. Je dois me constituer prisonnier en vue d'être jugé par une cour d'assises avec mon complice qui est toujours incarcéré. Après avoir été au culte, je me présente à la maison d'arrêt et le surveillant qui m'accueille me dit, « Monsieur Gauthier, si on vous demande de vous constituer prisonnier, c'est parce que premièrement, vous allez être jugé par une cour d'assises et vous le savez, les peines sont conséquentes. » Je lui dis, « Oui, je le sais. » Mais il me dit, « Monsieur, où sont vos affaires? Où sont vos valises ?» Je lui montre ma Bible et je lui dis, « Voici mes affaires, voici ma valise. » Pendant 2 jours, j'ai été jugé. Les témoins sont venus raconter leur calvaire à la barre. J'ai saisi cette opportunité pour leur demander pardon. Les avocats, le procureur, la cour est partie délibérer. Et lorsque la cour est revenue, nous avons été invités à nous lever. Mon complice et moi, nous avons été reconnus coupables des faits qui nous étaient reprochés. Et ça a commencé par mon complice qui a écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme. Et alors que je m'attendais à une peine, je ne sais pas laquelle, la juge va dire ceci. Il y a 36 mois, nous avions quelqu'un qui était complètement perdu. quelqu'un de dangereux pour la société, alors nous avons jugé bon de le mettre en détention. Mais au travers des rapports du contrôle judiciaire, les psychiatres, nous voyons que M. Gauthier s'est totalement réinséré dans la société. Je dirais même que c'est un exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Au regard de cela, nous avons décidé de le condamner à une peine de sursis. Ce qui voulait dire que je ressortais libre du tribunal. Cette épée de Damoclès ôtée par Dieu au-dessus de ma tête me permettait de voir mon avenir avec sérénité et tout allait bien. Je devenais enfin un père, un exemple pour mes enfants et un bon mari, un vrai mari pour mon épouse. Un jour, le téléphone sonne. C'est mon petit frère qui m'annonce une terrible nouvelle. Il m'annonce que mon grand frère vient de se faire assassiner. Et là, pour moi, c'est le monde qui s'affaisse sous mes pieds. Je me demande pourquoi. Avant de conclure, j'aimerais vous passer un court-métrage qui a été réalisé sur ce passage et je reviendrai pour apporter ma conclusion.
Quand j'ai appris la nouvelle, j'y croyais pas. Le lendemain, la police m'a demandé d'aller reconnaître son corps à l'Institut médico-légal. Il l'avait mis derrière une vitre, recouvert d'un drap blanc. Et je me disais, non, c'est pas possible. La dernière fois que j'avais vu mon frère, on s'était serré dans les bras, il m'avait regardé comme pour me dire à plus tard, ou peut-être au revoir. Mais est-ce qu'à 30 ans, on doit mourir? Est-ce qu'à 30 ans, on doit cesser de vivre? Je pense pas. Une semaine plus tard, la police nous a permis de procéder à l'enterrement. Mon frère était très connu dans le monde de la musique et beaucoup de gens étaient là. Mes trois fidèles amis et moi-même, nous avons empoigné son cercueil pour le conduire à ce trou qu'on avait creusé en terre. Et alors qu'on marchait dans cette petite ruelle, je pensais à cette Bible que mon frère avait toujours avec lui. Quand il l'oubliait, il venait la chercher à la maison. C'était son porte-bonheur. Une Bible que quelqu'un a dû lui offrir dans la rue, dans le métro, dans le bus, je ne sais pas. Et moi qui suis chrétien, je ne peux pas ignorer les vérités qu'elle renferme. C'est un trésor qui aurait pu bouleverser, changer sa vie. Mais je sais aussi que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Mon frère n'a jamais permis à Dieu d'entrer dans sa vie. Pourtant, à chaque fois qu'il prenait cette Bible, c'est comme si Dieu frappait à la porte de son cœur. Elle lui disait, hey, mon enfant, donne-moi tes souffrances, confie-moi toutes ces addictions, ces chagrins, ces fardeaux qui pèsent sur toi, confie-moi ta vie. Mais mon frère n'a jamais fait ce pas vers Dieu. On arrive à cet endroit et en réalité, je n'ai pas envie de déposer son cercueil, je n'ai pas envie d'y arriver, je n'ai pas envie de le laisser. Je me dis quelque part qu'il y a encore peut-être quelque chose à faire. Tant qu'il est à côté de moi, il y a peut-être une solution. Je prie dans mon cœur Dieu de le ramener à la vie. Mais très vite, je comprends. C'est trop tard. Que mon frère a fait son choix. C'est fini, c'est terminé. Alors, j'ai regardé mon frère être mis en terre. Et je suis reparti avec l'intime conviction que des gens comme mon frère l'avait partout. Des gens qui ont une Bible dans la poche, parfois même qui vont à l'église, mais qui n'ont jamais permis à Dieu d'entrer dans leur cœur. Des gens qui souffrent, des gens qui sont liés par des addictions, sont noyés dans l'alcool, dans la drogue, qui pensent à la mort. Des gens qui ont besoin de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu te tend la main. Dieu te lance un appel dans les évangiles de Jean, chapitre 3, verset 16. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si mon frère était là, s'il pouvait te parler, là maintenant, il te dirait, j'ai gaspillé ma vie, je l'ai dissipée, j'ai volontairement décidé de vivre pour moi-même et de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu en échange de mon âme? C'est trop tard, c'est fini. Mais pour toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est pas fini, c'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux décider de te lever. Aujourd'hui, tu peux décider d'accepter cette vérité, oui, de dire dans ton cœur, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Jésus-Christ, je viens d'entendre que tu es venu donner ta vie pour moi. Jésus-Christ, je veux te confier ma vie pour que tu la changes. Et alors que tu fais ce pas vers Dieu, je t'assure, il va changer ta vie comme il l'a fait pour tant d'autres. N'attends pas demain pour prendre cette résolution, cette décision. Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Tu ne connais pas pour demain. La vie, c'est une vapeur qui paraît pour un peu et qui disparaît. Non, aujourd'hui, si tu as l'opportunité de prendre cette décision, prends-la.
Si moi, je pouvais cet après-midi parler à mon frère, je lui dirais, frangin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je connais quelqu'un qui peut prendre toutes tes souffrances. Je connais quelqu'un qui peut te libérer de toutes ces addictions. Je connais quelqu'un qui peut changer ta vie. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Mais c'est trop tard. Mon frère n'est plus là. Et toi, tu es là cet après-midi. Et je veux te dire, c'est l'heure pour toi de prendre une décision. Toi qui es là cet après-midi et qui veux simplement dire oui à Jésus, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je te demande de lever la main là où tu es. Merci Seigneur. Je te demande de te lever. Lève-toi. Prends une vraie décision. Quand moi j'ai dit oui à Jésus, ma vie, elle était en ruine, en miettes, en poussière. Et 15 années plus tard, je peux vous le dire, Dieu a totalement reconstruit, remodelé, façonné, transformé ma vie. Alors ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes lacunes, ne regarde pas tout cela, mais regarde simplement au Seigneur qui t'appelle et qui te dit, viens, sortez des rangs et venez devant. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes. Une fois que je vais prier, les équipiers vont être là aussi pour prier, vous accompagner dans la prière. Priez. Je demande à toutes les personnes qui sont là devant de répéter après moi ces mots. Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et prends l'engagement de te suivre pour le restant de mes jours. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié.